présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Jean-Pierre Junière. Les conspirateurs, mise en scène, production de Jean-Pierre Junière. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur.
Chez ses parents, c'est sa mère qui le reçoit. « Viens, j'ai à te parler. » Il la suit au salon. Et s'assoit. Les parents de Chantal m'ont téléphoné. La petite est dans tous ses états. « peux-tu me dire ce qui s'est passé? Vous avez une scène terrible, paraît-il. » Pierre se dit que, ma foi, il faut bien y passer. Alors, voilà, mère, j'ai rompu avec Chantal. Et pourquoi? Parce que j'en avais assez de ses idées, la façon de se comporter. Je te l'avais prévenu, mon fils, que cette fille était impossible. Mais rompre comme ça, c'est elle qui a fait une scène, elle voulait même se suicider. Je lui ai arraché son revolver des mains. Tenez. Il lui montre le revolver qu'elle a dans sa poche. Faudra le lui rendre. Je le reporterai. La mère se sert un verre de Porto. Tu en veux? Non, merci. Et que vas-tu faire maintenant?
Rien.
Tu n'as pas une autre petite amie?
Non.
Pourtant, d'après Chantal, tu aurais une autre femme.
Pierre rougit.
Oui, mais je ne peux pas en parler pour le moment.
Elle pose son verre.
Elle lui demande. Ce n'est pas sérieux?
Si, c'est très sérieux, mais l'avenir est trop incertain.
Bien, j'attendrai. Et puis tu as le temps. Il faut d'abord que tu termines tes études.
Mardi, il est chez Chantal et lui demande « Voudrais-tu m'épouser ?» Qu'elle lui sourit et lui dit « Tu sais que malheureusement je suis mariée. Tu peux divorcer ? Ce n'est pas si simple.
Si, il suffit de le demander.
Et mon fils ?
Tu le garderas ? Cela ne me gêne pas du tout.
Alors ?
Je ne sais pas. Il faut que j'y réfléchisse. »
Il soupire et lui dit « Si tu m'aimais vraiment, tu n'aurais pas à réfléchir. »
Elle est agacée, lui dit. « Écoute, divorcer, c'est changer de vie. Et cela ne se fait pas comme ça. J'ai ma vie, j'ai des obligations, j'ai ma famille. »
Il lui dit boudeur. « Tu préfères que l'on se voit comme ça une fois par semaine? Cela te suffit.
On couche avec un jeune comme ça une fois par semaine, c'est bien. »
« Ne dis pas cela. »
Il lui dit, si tu m'aimais vraiment, tu voudrais vivre constamment avec moi.
Elle lui dit, qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, j'aimerais vivre toujours avec toi.
Eh bien, ne fais pas l'enfant. Ne fais pas ces choses-là comme ça d'un coup de tête.
Il faut préparer l'avenir pour que nous puissions être heureux.
Laisse-moi un peu de temps.
Combien de temps?
Elle se lève. Merveille marche en lui disant
« Je ne peux tout de même pas dire à mon mari, comme ça, tout de go, que je le quitte.
C'est un brave homme, que je n'aime plus, mais que j'estime.
On ne quitte pas quelqu'un après plusieurs années de vie commune, comme ça.
Il n'y est pour rien, le pauvre, si je ne l'aime plus.
Et mon fils, vous le préparez aussi.
D'un coup, il va se trouver sans son père.
Et mon père, tu comprends?
Et ta famille?
À toi aussi. »
Pierre se dit qu'elle a raison. La famille, la société, nous oblige à vivre, à se comporter d'une certaine façon. On conspire, tout le monde conspire pour que nous rentrions dans le moule.
Il lui dit, tu as raison, il faut que l'on vive comme les autres.
Comme les autres veulent que l'on vive.
Elle s'approche de lui et lui dit, il ne faut surtout pas que notre bonheur fasse souffrir une personne, tu comprends?
Il lui dit,
et en le vivant caché, tu crois que c'est mieux?
Pour le moment, oui.
Allons, ne sois pas triste, aimons-nous comme nous le faisons.
Elle se penche
et l'embrasse sur les lèvres. La discussion leur a fait perdre du temps. Il est trop tard pour faire l'amour. Pierre le regrette. Valérie décommande Émile. Elle a besoin d'être seule. Après ce que lui a dit Pierre, elle veut sérieusement réfléchir à son avenir. Émile est surpris. Que se passe-t-il?
Rien, j'ai besoin d'être seule.
Tu as des ennuis?
Non, je suis un peu lasse. Ne te fais pas de soucis. On se reverra la semaine prochaine.
Valérie se dit. À force de vouloir faire plaisir à tout le monde, on risque de faire de la peine à tous. Ça ne peut pas durer comme ça. J'aime qui vraiment? Et que dois-je faire?
Pierre, oui, Pierre, je l'aime.
Mais Émile, je me sens impossible de le laisser. Mon mari non plus. J'aimerais pouvoir partir loin, loin, loin avec mon fils. Mais c'est impossible. Ils seraient tous là. Et je me sentirais coupable. Oh, Pierre, Pierre, pourquoi ne t'ai-je pas connu plus tôt? Pourquoi? Les examens approchent et Pierre étudie ferme chez lui et trois fois par semaine il va à l'université. Là, il voit depuis quelque temps les jeunes agités. Le gouvernement souhaite modifier certaines choses pour que le passage d'un cycle à un autre soit plus sélectif. Et comme d'habitude, à chaque fois que l'on cherche à changer quelque chose dans le monde de l'éducation, c'est la panique et l'on refuse en bloc les changements. Pourtant, tout le monde est d'accord, l'éducation, comme elle est, ne va pas. Il faut donc la changer. Mais le monde de l'enseignement est un monde fermé, dirigé par des gens qui ont passé toute leur vie à l'école, de la maternelle à la retraite. Que ce soit les enseignants ou les dirigeants. Alors, bien sûr, ils ont pris leurs petites habitudes. Ils ont peur du changement. On ne sait jamais, pour les payes, les vacances, la retraite, la prime de logement, etc., etc. Alors, pour se défendre, ils se sont fortement syndiqués et politisés. Socialistes, gauche, caviar, c'est en grande partie eux. Pour se faire épauler, au lieu de manifester soi-même, il vaut mieux y envoyer les jeunes. C'est plus brillant, nombreux, et chaque homme politique a un fils à l'université. Donc, il n'oserait pas le réprimer, et même se sentirait obligé de le défendre. Ce qui fait que chaque fois que les étudiants manifestent, on leur accorde tout de suite ce qu'ils demandent. Ce n'est pas comme pour les autres classes de la société. Si les chômeurs défilaient pour avoir plus de rémunération, ils auraient droit, comme réponse, à des quarts de police. Entre parenthèses, les étudiants ne revendiquent que pour eux et se fichent de la société. Pourtant, ce sont la société. Sans la société, ils ne sauraient rien, puisque c'est la société qui leur paye leurs études. Chaque fois que le gouvernement paye, c'est avec notre argent. Donc, il y a des troubles à l'université.
Cela énerve Pierre d'entendre dire n'importe quoi.
Le petit blond tout maigre lui demande « Tu viens manifester cet après-midi avec nous ?»«
Non. »
« Pourquoi ?»«
Parce que vous êtes tous pareils. Lorsque vous êtes jeune, vous êtes de gauche. Par tradition et contradiction avec le père. C'est oedipien.
Vous dépensez de l'argent pour les filles, concerts, fringues.
Allez-vous défouler à Radio Canu ?
Bien entendu, c'est avec l'argent de papa, maman.
Comment fait tout ça ?
Vous ne faites pas votre service militaire.
Bien entendu, vous êtes objecteur de conscience.
Et allez chez le médecin, ami de papa, pour qu'il vous fasse un papier.
Le service militaire, c'est bon pour les ouvriers et les chômeurs.
On est de gauche, mais tout de même, aux autres, la corvée.
Une fois que les études sont finies, vous vous mariez avec la fille d'un ami du père qui vous fait entrer dans l'usine de la famille. Après 6 mois de stage, vous êtes nommé cadre commercial sans rien connaître de la fabrication ou du produit.
Le savoir, c'est bon pour les ouvriers qui veulent monter.
Vous, vous avez bien entendu une voiture de fonction. La famille vous a prêté ou donné un petit appartement. Et les idées de gauche sont oubliées pour être de droite et fréquenter les amis de papa et beau-papa. La solidarité, l'égalité, vite oubliée. Tout ça, c'était des idées de jeunesse.
Tu es salaud de dire ça.
Nous, mon vieux, lucide, socialiste, gauchiste, je les ai vus de près.
Mais la droite ne vaut pas mieux.
Alors, qu'est-ce qu'il faut ?
Il faut laisser les gens libres de vivre la vie qu'ils désirent.
Ne pas conspirer pour qu'ils vivent comme on veut qu'ils vivent.
Le jeune lui dit, tu es pour la liberté, comme nous ? Tu es de gauche ?
Non, parce que vous êtes comme tous les autres. Vous voulez imposer vos idées, votre façon de penser et de vivre.
Le jeune lui dit, mais nous ne sommes pas comme les autres.
Si tu dis ça, c'est que tu es contre nous.
Je suis contre personne, je veux simplement qu'on me laisse tranquille.
Tu es un égoïste alors ?
Peut-être, mais moi je n'embête personne.
Et Pierre quitte le jeune homme. Il décide de rentrer chez lui. De toute façon, il est impossible de travailler dans des conditions pareilles.
Les jeunes crient.
C'est vraiment la pagaille. Prépare des pancartes, discute, te tracte, comme toujours. Le fasciste ne passera pas. Gouvernement, démission, etc., etc. Pierre longe un couloir qui mène aux vestiaires et aux toilettes.
Derrière lui, comme on court. Il se retourne, c'est le jeune blond avec 3 autres qui se mettent à lui suivre, lui courir après. Il le rattrape. Le jeune lui crie, arrête, Pierre arrête. Les jeunes arrivent. Ils sont à côté de Pierre.
Un grand brun dit à Pierre, c'est toi le fasciste ?
Pierre dit, quoi ?
Oui, c'est toi.
C'est le blond qui l'a dit.
Oui, c'est lui.
Le grand brun prend au col Pierre.
Espèce de facho !
Pierre est poussé contre le mur.
Il n'arrive pas à se défendre. On lui donne des coups dans le ventre.
Il est poussé aux toilettes. On lui met la tête dans la cuvette.
Pierre essaie de se défendre, mais tenu fermement par les 4 gaillards, les mains, les jambes, la tête.
L'un tire la chasse d'eau.
Il sent l'odeur d'urine entrer dans ses narines, sa bouche.
Il a la tête trempée.
On lui donne des coups de pied dans le dos.
Puis, on le laisse.
Pierre se redresse, courbaturé, mouillé, mal de partout. Sort des toilettes et se met à crier aux fuyards. Vous êtes contre les fascistes ? Vous agissez comme eux. Puis, ils ont disparu. Il va au lavabo pour se nettoyer. Il se met la tête sous l'eau, savonne, puis s'essuie et sort des toilettes. Quels que soient ces jeunes, ils sont manipulés politiquement. De vrais robots, oui, de vrais robots. Chez lui, il va dans sa chambre. Se changer, faire sa toilette. Une fois qu'il a fait sa toilette, on a frappé à sa porte. Oui. Monsieur, on vous demande au téléphone. Bien, j'arrive. Il va au salon pour répondre. Allô, oui, c'est Valérie. Bonsoir. Elle demande, ça va ? Oui, Valérie. Je voudrais te demander, est-ce que tu peux venir samedi ? Je viendrai. Elle soupire. Elle lui dit, j'avais peur que tu ne sois fâchée. Non, je ne le suis pas. Je t'aime toujours. Et le samedi soir, il sonne chez elle.
Entre. Bonjour.
C'est elle qui l'a fait rentrer. Elle le mène au salon comme d'habitude. Assis tous deux, elle lui dit « J'ai bien réfléchi. Il faut que nous continuions à nous voir comme ça. Enfin, en tout cas, pour le moment. Mais mes sentiments pour toi n'y sont pour rien, tu sais. Je te jure que je t'aime. Mais j'ai mon fils et tu dois comprendre. Je comprends. Nous nous verrons ainsi. Mais moi aussi, je t'aime.
et c'est pour ne pas te faire de la peine que j'accepte.
Les jours passent. Valérie
voit aussi Émile. Émile qui l'aime aussi très fortement.
Il y a de plus en plus de difficultés à penser à sa femme et en a honte, car il se dit que c'est une femme modèle, fidèle, attentive. Et lui, il la trompe. En plus, il la trompe doublement.
Les matinées, en écrivant 2 heures avec ce souvenir,
et le mardi avec Valérie, mais il ne peut rien. Émile, lorsqu'il aime, il l'aime.
Il écrit, mais il ne veut pas se presser, car il ne veut pas arriver à la fin. Il se sent très bien dans son passé sentimental. Pourtant, il n'est pas folichon, son passé, comme vous avez pu vous en rendre compte. Mais c'est justement parce qu'il n'est pas folichon qu'il y tient. S'il avait eu une vie à Don Juan, il en aurait été rassasié, tandis que là, le manque le met en éveil et lui fait apprécier les quelques aventures qu'il a eues. À part son amour pour Patrick, ses aventures sont bien mornes et peu. Gérard, Jérôme et Valérie, plus sa femme, pour une vie ce n'est pas beaucoup. Pour Émile, Patrick, c'est l'amour pur, vrai, lyrique. Gérard, l'amour physique, gentil. Jérôme, c'est l'amour tendresse, confident. Valérie, l'amour surprise. Sa femme, l'amour douceur, familial. C'est-à-dire, sans problème, puisque institutionnel. Voilà l'histoire de tous ses amours qu'il écrit sur son cahier.
Valérie ne lui demande pas plus qu'elle ne lui donne. Il sait que c'est déjà beaucoup, car elle a une famille et il y a une différence d'âge entre eux. Il sait que malheureusement, un jour, il devra s'éclipser pour ne pas paraître ridicule. Mais que faire? Le temps passe. place aux autres. La terre n'appartient à personne. Ce n'est qu'un lieu de passage. Un beau lieu de passage tellement beau qu'on aimerait y rester éternellement. Gérer son entreprise, elle progresse régulièrement. Des jours, il se met à regretter ce que son fils ne veut pas lui succéder. À qui vais-je donner l'affaire? Je n'ai qu'un fils. Ce serait dommage qu'un étranger la dirige. Mais qui? Du côté de ma femme, ce sont que des... afro-gauchiste, inquiet qu'un fils. Ce serait dommage qu'un étranger la dirige. Mais qui? Du côté de ma femme, ce sont que des afro-gauchistes incapables. Faudrait voir de mon côté. Je n'ai gardé aucune relation avec la famille de mes parents. Faudrait peut-être que j'y pense. Comme le temps passe vite. Je suis déjà au moment où il faut commencer à penser à son successeur. La vie est courte, courte. J'ai l'impression de n'avoir presque rien fait. J'ai vieilli, mais j'ai gardé mon cerveau de garçon, d'adolescent. On ne se voit pas vieillir, sauf dans le regard des autres, ou lorsqu'on se voit dans la glace. Là, c'est terrible. Ce doit être la même chose pour tout le monde. Pour les femmes peut-être encore plus que pour nous. Sûrement. Regarde sa montre. Il voit qu'il est l'heure de partir pour son travail. Il sort de son bureau. Trouve dans le couloir sa femme, habillée de noir, maigre. Il la regarde bien, a pitié d'elle, ne sait que lui dire. Alors il lui dit, je vais travailler. Elle lui sourit timidement, il la trouve vieillie, changée. Pris de tendresse, il donne un baiser sur le front et s'éloigne.
Émile est dans son bureau et se dit qu'il faut qu'il trouve un successeur. Il est temps, car il faudra le former. Mais qui ? Voyons du côté de ma famille. Mon père, un frère, oui. Je vais faire des recherches de ce côté. Et le soir, en rentrant chez lui, il va à son bureau. Voir les papiers de famille enfermés dans un placard. Il a trouvé un carton où sont tous ces vieux papiers. Cherche, regarde. Ah, voilà. Ducret, Pascal. Il habite les environs de Bordeaux. Il branche le Minitel pour voir s'il n'y a pas une adresse et un numéro de téléphone. Il voit que du côté de Bordeaux, il y a un Pascal Ducret. Relève les coordonnées. Je ne m'en vais pas leur téléphoner. Nous ne le connaissons pas assez. Je vais leur écrire pour savoir si c'est bien eux et leur dire que j'aimerais bien les voir comme ça pour connaître ma famille. Il leur a écrit, leur demandant s'ils étaient bien de la famille et si oui, s'ils acceptaient de le recevoir pour faire connaissance. Cette lettre l'a embarrassé et se demande si lui, s'il avait reçu une lettre comme celle-là, il aurait répondu. 3 semaines plus tard, il a reçu la réponse. On lui dit qu'il ne s'est pas trompé, que c'est bien eux et qu'on est prêt à le recevoir quand il veut. Émile réfléchit et se dit: je vais en parler à ma femme et à mon fils pour leur dire que je pars là-bas pour voir s'il n'y a pas un héritier pour l'entreprise. Lui dit, tu es bien obligé de faire comme cela, puisque notre fils ne veut pas te succéder. Émile demande à Pierre, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais ce que tu veux, père. Bien, je vais prendre contact avec ces gens et voir. La Valérie. Ça m'ennuie de le faire, mais je ne peux pas faire autrement. Émile s'est arrangé avec son oncle pour le voir le samedi matin.
part le matin en train pour Bordeaux. Il arrive à Bordeaux à 10h du matin, il fait chaud et beau. À la gare, doit l'attendre son oncle, qu'il ne connaît pas. Descend du train et se dirige vers la sortie. Tout à coup, il est accosté par un homme, petit, vieux, à cheveux blancs, tout maigre, habillé d'un costume d'été gris, pour marcher. Vous êtes Émile Ducret ? Oui, je suis Pascal Ducret. Enchanté. Mais comment m'avez-vous reconnu ? Par vos yeux. Vous avez les yeux des Ducret. Venez, je vais vous conduire jusqu'à ma voiture. Nous habitons à une dizaine de kilomètres de Bordeaux. À la sortie de la gare, ils ont pris une voiture. S'est arrêté en pleine campagne, devant une ferme transformée en maison d'habitat pour citadins. Ils sont sortis de voiture. Pascal dit à Émile, « C'est le seul bien qui me reste. » Et ils vont rentrer dans la maison. Meuble campagnard. Mur crépit à la chaux, ils vont s'asseoir au salon. Connaissance. Émile apprend que l'oncle est ruiné, que sa femme a décédé et que son fils habite Bordeaux. Il est marié et négociant en gros de vin. Marié avec un fils. Émile demande, et comment est le petit?
Un pauvre jeune homme de 22 ans, calme, sans histoire. Il a été jusqu'en première année d'université. Il voulait faire commercial, mais il a eu des difficultés. Vous savez, pour les examens, ils sont durs. Alors, il ne fait rien. Au chômage, comme l'on dit. De temps en temps, il fait des petits boulots, pas grand-chose.
Il habite chez ses parents?
Oui.
Pouvez-vous me donner son adresse?
Mais pourquoi vous intéressez-vous à lui?
Je ne peux pas vous le dire. Il faut d'abord que je le voie.
Je veux bien vous la donner. Et vous, que faites-vous? êtes-vous ?
Une fois qu'ils aient parlé, mangé un peu, Pascal décide de mener Émile chez son fils. La voiture et vont à Bordeaux, centre. Là, ils se sont arrêtés devant l'entrée d'un immeuble cossu. Ils entrent dans l'immeuble, montent des étages. Au quatrième, Pascal sonne.
Tiens, père. Salut, fils. Je suis venu te présenter le fils de mon frère, ton cousin Émile.
Denis les fait rentrer. Appartement bourgeois, meuble Louis XV. Je suis Émile Ducret, ton cousin. Nous ne sommes jamais vus, je tenais à faire connaissance avec vous.
Eh bien, entrez.
Il me mène au salon. Et chacun s'assoit sur des fauteuils. Tout en buvant du Bordeaux, ils font plus ample connaissance. Femme.
Elle est chez sa sœur.
Et ton fils?
Il ne veut pas tarder. Ton fils et le mien sont à peu près le même âge.
Oui, dit Émile. C'est pour cela que peut-être j'ai pensé à lui. Il est toujours à la recherche d'un emploi.
Oui, hélas.
C'est un garçon sérieux?
Je n'ai jamais eu de problème avec lui.
On va sonner à la porte. Denis dit,
ça doit être lui.
Il se lève pour aller ouvrir.
Jeune homme mince, grand, cheveux blonds cendrés, le visage très fin, les yeux d'une luminosité extraordinaire, un bleu profond, d'une beauté douce. Il porte un costume beige clair de belle coupe. Émile est surpris par cette élégance. Il se lève. Le père fait les présentations.
Je suis le cousin de ton père. Après avoir discuté de choses et d'autres, et mangé, Émile est décidé. Il vaut mieux connaître le jeune homme. Il s'assoit près de lui.
Alors Vincent, dis-moi ce que tu comptes faire plus tard.
Pour le moment, je ne sais pas trop. Les affaires me plaisent bien, mais pas le vin.
Pourquoi ?
Tout simplement parce que je n'aime pas le vin. Les produits pharmaceutiques.
Ça, peut-être. Les médicaments, c'est sérieux ?
Oui, pourquoi pas.
Thank you. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les Conspirateurs. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.